Chapitre 5. Je me réveillai tard le lendemain, ayant mal dormi, poursuivi dans mon sommeil coupé de cauchemars par la pensée de Juliette. Durant cette fin de nuit troublée et fiévreuse, elle ne m'avait pas un instant quitté, prenant les formes les plus extravagantes, se livrant aux plus déplorables fantaisies. Et voilà qu'au matin, je la retrouvais encore et telle, cette fois que j'avais rencontré la veille chez Lyra avec son air décent, ses manières discrètes et charmantes. J'éprouvais même de la tristesse, non pas de la tristesse, un regret, le regret qu'on a à la vue d'un rosier dont toutes les roses seraient fanées et dont les pétales joncheraient la terre boueuse. Car je ne pouvais penser à Juliette sans penser en même temps aux paroles méchantes de Lyra. Mais il y avait aussi l'histoire d'un lutteur de Neuilly à qui elle donnait 20 francs. Quel dommage! Quand elle était entrée dans l'atelier, j'aurais juré que c'était la plus vertueuse des femmes. Rien que sa façon de marcher, de saluer, de sourire, d'être assise, disait la bonne éducation, la vie calme, heureuse, sans hâte mauvaise, sans remords salissants. Son chapeau, son manteau, sa robe, tous ses ajustements étaient d'une élégance délicate, intime, faite pour la joie d'un seul, pour la gaieté d'une maison solidement verrouillée, fermée aux quêteurs de procès impurois impurs. Et ses yeux, tout emplis de tendresse permise, ses yeux d'où rayonnaient tant de candeur, tant d'ingénuité, qui semblait ignorer le mensonge, ses yeux plus beaux que les lacs hantés de la lune. « Charles va bien ?» avait demandé Lyra. « Charles, son mari parbleu. » Mais naïvement, je me faisais l'idée d'un intérieur respectable, avec de jolis enfants jouant sur les tapis, une lampe familiale, groupant autour de sa douce clarté des êtres simples et bons, un lit pudique protégé par le crucifix, et la branche de buis béni. Tout à coup, tombant dans cette paix, le cabot des bouffes, le croupier de cercle, et Charles Malter qui démolissait le divan de Lyra à force de s'y rouler en pleurant de rage. J'évoquais la physionomie du comédien, une face pâle, plissée, glabre, des yeux cyniques, éraillés, des lèvres ignobles, un col très ouvert, une cravate rose, un veston court, aux plis crapuleux. J'étais énervé, irrité. Que m'importait, après tout? Est-ce que la vie de cette femme me regardait, m'appartenait? Est-ce que j'avais l'habitude de m'attendrir sur la destinée des filles que le hasard jetait sur mon chemin? Qu'elle fût ce qu'elle voudrait, mademoiselle Juliette Roux. Elle n'était ni ma sœur, ni ma fiancée, ni mon amie. Elle ne se rattachait à moi par aucun lien. Aperçue hier comme une passante de la rue, comme de ces mille êtres vagues que l'on frôle chaque jour et qui s'en vont et qui s'effacent, elle était déjà retournée au grand tourbillon de l'oubli. Et plus jamais je ne la reverrai. Et si Lyra se trompait, me disais-je tout en déjeunant. Je connaissais ses exagérations, le besoin qu'il avait d'être méchant, son horreur et son mépris de la femme. Ce qu'il racontait de Juliette, il le racontait de toutes les autres. Oui, peut-être que ce comédien, ce croupier, tous les détails de cette existence infâme, où sa verve amère s'était conclue, n'existaient que dans son imagination. Et Charles Malter, oh, sans doute, j'aurais préféré qu'elle fût mariée. Il m'eût été agréable qu'elle puisse s'appuyer au bras d'un homme, librement, respecté, envié des plus honnêtes. Mais elle l'aimait, ce Malter, elle vivait avec lui, décemment, elle lui était dévouée. Charles sera très chagrin de votre refus. J'avais encore dans l'oreille la voix presque suppliante avec laquelle elle prononça ces mots. Elle s'inquiétait donc de ce qui pouvait plaire ou déplaire à ce Malter. Et à la pensée que Lyra, abusant d'une situation fausse, la calomniait odieusement. J'eus le cœur serré, une grande pitié m'envahit. Je me surpris à dire tout haut, « Pauvre fille !» Cependant, ce Maltaire s'était roulé sur le divan, il avait pleuré, il avait fait des confidences à Lyra, montré des lettres. Et puis après, est-ce que je la connaissais, moi, cette femme, qui eut tous les chanteurs, tous les croupiers, tous les lutteurs, au diable ? Et je sortis, fredonnant un air gai, de l'allure dégagée d'un monsieur qui n'a aucun souci dans l'esprit. Et pourquoi en aurais-je, je vous le demande ? Je descendis les boulevards, m'arrêtant aux boutiques, flânant malgré le soleil, un avare et pâle sourire de décembre encore imprégné de brume. L'air était froid, piqué dur. Sur le trottoir, des femmes passaient, frileuses, enveloppées de longs manteaux de loutre, quelques-unes coiffées de petites capotes de fourrure, pareilles à celles de Juliette, et chaque fois j'étais intéressé par ce manteau et par cette capote. Je les regardais vraiment avec plaisir, j'aimais à les suivre de l'œil jusqu'à ce qu'ils eussent disparu dans la foule. Au coin de la rue Taitbout, je me souviens, je croisais une femme grande, mince, jolie et ressemblante à Juliette, au point que je mis la main à mon chapeau, prêt à saluer. J'eus une émotion. Oh, ce n'est pas le coup violent au cœur qui arrête la respiration, vous casse les veines et vous étourdit. Non, c'était un effleurement, une caresse, quelque chose de très doux qui amène un sourire sur les lèvres et dans les yeux un épanouissement. Mais cette femme n'était pas Juliette. J'en eus une sorte de dépit, et je me vengeais d'elle en la trouvant très laide. Déjà 2 heures. Mais si j'allais voir Lyra, bon, à quoi bon ? Le faire parler de Juliette, l'obliger à m'avouer qu'il avait menti, à m'apprendre des traits d'elle, poignants, sublimes, des histoires touchantes de dévouement, de sacrifice. Oh, cela me tentait. Je réfléchis que Lyra se fâcherait, qu'il se moquerait de moi, d'elle, et je redoutais ses sarcasmes. Et j'entendais déjà les mots sinistres, les phrases abominables sortir en sifflant du coin tordu de ses lèvres. Dans les Champs-Élysées, je hélai un fiacre et me dirigeai vers le bois. Pourquoi le dissimuler ? Là, j'espérais rencontrer Juliette. Certes, je l'espérais et en même temps, je le craignais. De ne point la voir, je concevais que ce me serait une déception, mais qu'elle s'étala comme les autres demoiselles, régulièrement en cette foule de la gare de la galanterie, je sentais aussi que ce me serait une peine. Je ne savais ce qu'il emportait en moi de l'espérance de l'apercevoir ou de la crainte de la rencontrer. Il y avait peu de monde au bois. Dans la grande allée du lac, les voitures marchaient au pas, à une assez grande distance l'une de l'autre, des cochers hauts sur leurs sièges. Quelquefois, un coupé quittait la file espacée, tournait et disparaissait au trot de ses chevaux, entraînant, le diable sait tout, un profil des femmes, des faces toutes blanches et pâles, des bouts d'étoffe violette, rapidement entrevus par la glace des portières. Ma poitrine et mes tempes battaient plus vite. Une impatience m'exaspérait le bout des doigts, à force de toujours regarder dans la même direction, de sonder l'ombre des voitures. Et mon cou se fatiguait, s'endolorissait. Je mâchonnais anxieusement un cigare que je ne me décidais pas à allumer, dans la peur de laisser passer une voiture où elle se fût trouvée. À un moment, j'ai cru avoir aperçu, au fond d'un coupé, qu'elle est en sens contraire de mon fiacre. « Tournez, tournez !» criai-je au cocher, « et suivez ce coupé !» Je ne fis point réflexion que c'était agir bien légèrement envers une femme à qui j'avais été présenté la veille par hasard et que je voulais à tout prix réhabiliter. Le corps à demi penché sur la glace baissée de la portière, je ne perdais pas la voiture de vue. Et je me disais, elle m'a peut-être reconnu, peut-être va-t-elle s'arrêter, descendre, se montrer. Oui, je me disais cela, sans m'attribuer la moindre idée de conquête galante. Je me disais cela comme si c'était une chose toute simple et toute naturelle. Le coupé filait, preste et leste, dansant sur ses ressorts, et le fiacre avait peine à le suivre. « Plus vite, commandai-je, plus vite donc, et dépassez !» Le cocher fouetta son cheval qui prit le galop, et en quelques secondes, les deux voitures, roue contre roue, se touchaient. Alors, une tête de femme, dont les cheveux s'ébouriffaient sous le chapeau très large, dont le nez se retroussait drôlement, dont les lèvres, fracassées de rouge, saignaient comme une blessure à vif, apparut dans l'encadrement de la portière. D'un coup d'œil méprisant, elle inventoria le cocher, le fiacre, le cheval et moi-même, tira la langue, puis se rencontra dans la voiture. Ce n'était pas Juliette. Je ne rentrai chez moi qu'à la nuit tombée, très désappointé et pourtant ravi de mon inutile promenade. Je n'avais pas de projet pour le soir. Cependant, je m'habillai plus longuement que de coutume. J'ai mis un soin extrême à ma toilette et pour la première fois, le nœud de ma cravate me parut une chose grave. Je m'absorbais dans sa confection avec complaisance. Oh, cette révélation soudaine en amena d'autres, plus importantes encore. Ainsi, je remarquai que mes chemises étaient mal coupées, que le plastron godait d'une façon disgracieuse à l'ouverture du gilet, que mon habit affectait une forme très ancienne, étrangement démodée. En somme, je me trouvais assez ridicule et me promis de changer cela dans l'avenir. Sans faire de l'élégance une loi obligée et tyrannique de ma vie, il m'était bien permis d'être comme tout le monde, ce semble. Parce que l'on se mettait bien, on n'était pas forcément un imbécile. Ces préoccupations me conduisirent jusqu'à l'heure du dîner. D'habitude, je mangeais chez moi, mais ce soir-là, mon appartement, je le jugeais trop petit, trop silencieux, trop morose. Il m'étouffait et j'avais besoin d'espace, de bruit, de gaieté. Au restaurant, je m'intéressais à tout, au va-et-vient des gens, aux dorures du plafond, aux grandes glaces qui répétaient jusqu'à l'infini les salles, les garçons, les globes de lumière, les fleurs des chapeaux, le buffet où s'étalaient des viandes parées, où des pyramides de fruits montaient, rouges et dorés, parmi les verdures et les étincelantes verreries. J'examinais les femmes, et surtout j'étudiais leur façon de manger, en quelque sorte aérienne, le jeu de leurs prunelles, le mouvement de leurs bras dégantés que des bracelets lourds cerclés d'or et d'éclairs vifs, l'angle de chair du cou, si délicate et fine, qui s'enfonçait dans les corsages sous le couvert rosé des dentelles. Oh, cela me ravissait, me passionnait comme une chose tout à fait nouvelle, comme le paysage d'un pays lointain, subitement entrevu. Il me venait des émerveillements, ainsi qu'à un très jeune homme. Porté par une disposition chagrine de mon esprit à faire prédominer dans l'être humain l'intime vie morale, c'est-à-dire à le marquer d'une laideur ou d'une souffrance, en ce moment, au contraire, je m'abandonnais à la satisfaction d'un goûter, sans réserve le seul charme physique. Je me réjouissais le regard de ce qu'une belle femme peut dégager de grâce autour d'elle, même chez les plus laides. Je retrouvais un détail dans la nuque, une langueur dans les yeux, une souplesse dans les mains, enfin n'importe quoi qui me contentait, et je me reprochais d'avoir si mal arrangé mon existence jusque-là, de m'être cantonné en sauvage au fond d'un appartement triste et sombre, et de ne pas vivre enfin, alors que Paris m'offrait à chaque pas des joies si faciles à prendre et si douces à savourer. « Monsieur attend peut-être quelqu'un ?» me demanda le garçon. « Quelqu'un ? Mais non, Je n'attendais personne. La porte du restaurant s'ouvrit et vivement je me retournai. Je compris alors pourquoi il m'adressait cette question, le garçon. Chaque fois que la porte s'ouvrait, il m'arrivait de me retourner ainsi avec hâte, et je dévisageais anxieusement les personnes qui entraient, comme si en effet je savais que quelqu'un devait venir et que je l'attendais. Quelqu'un, mais qui donc eus-je attendu? J'allais très rarement au théâtre. Il fallait pour cela une occasion, une obligation, un entraînement. Je crois bien que de moi-même, jamais je n'eus songé à y mettre les pieds. J'affectais même, pour la littérature qui se vante en ses déballages de médiocrité, un mépris souverain. Concevant le théâtre non comme une distraction futile, mais comme un art grave, il me répugnait d'y voir, dans un mécanisme de scène toujours pareil, la passion humaine rossignolant la même romance sentimentale, la gaieté dégringolant, salie de phare au fond de la même basse pitrerie. Un fabricant de pièces, si applaudi fut-il, me faisait l'effet d'un dévoyé. Il était au poète ce que le défroqué est au prêtre, le déserteur au soldat. Et j'avais souvent dans la mémoire un mot de Lyra, d'une concision formidable, d'un jugement profond. Nous avions été aux obsèques du grand peintre M, aidé, l'auteur dramatique célèbre, conduisait le deuil. Au cimetière, il prononça un discours. Cela n'avait étonné personne. M et D n'étaient-ils pas égaux à renommer? La cérémonie terminée, Lyra prit mon bras et nous rentrâmes à pied, très tristes, dans Paris. Lyra paraissait absorbé en des réflexions pénibles. Il gardait le silence. Brusquement, il s'arrêta, croisa les bras, et balançant la tête de cet air comique à force de gravité qu'il avait, il s'exclama « Mais qu'est-ce que défichait là-bas, hein, dites ?» Et c'était juste. Qu'est-ce qu'il fichait là, vraiment ? Venait-il donc de la même race et allait-il à la même gloire ? Le fier arististe aux pensées grandioses, aux immortelles œuvres, et l'autre dont tout l'idéal était d'amuser le soir de ses plates sornettes une assemblée de bourgeois enrichis et repus. Oui, en vérité, qu'est-ce qu'il fichait là ? Que j'étais loin de ces sentiments hargneux, quand, après le dîner, ayant piaffé sur les boulevards, heureux d'un bien-être physique qui donnait à mes mouvements une légèreté, une élasticité particulière, je m'asseyais dans une salle du théâtre des variétés où l'on jouait une opérette à succès. Le visage délicieusement fouetté par l'air froid du dehors, le cœur tout entier conquis à l'indulgence universelle, je jouissais véritablement. De quoi ? Oh, je ne le savais, et peu m'importait de le savoir, n'étant pas d'humeur à me livrer sur moi-même à des investigations psychologiques. Justement, j'étais arrivé pendant un entr'acte, et la foule encombrait les couloirs, très élégante. Après avoir remis mon pardessus à l'ouvreuse, j'avais fait le tour des baignoires, avec cette impatience douce, cette caressante angoisse, déjà éprouvée au bois, et monté à l'étage supérieur, j'avais continué le même scrupuleux examen des loges. Et pourquoi ne serait-elle pas ici, pensais-je. Et chaque fois que je ne distinguais pas nettement la physionomie d'une femme, soit qu'elle fût penchée, soit qu'elle fût noyée d'ombre, ou cachée derrière un éventail, je me disais « C'est Juliette !» Et chaque fois, ce n'était pas Juliette. La pièce m'amusa, je ris franchement, aux lourdes plaisanteries qui ont constitué l'esprit, et toute cette ineptie sinistre, toute cette grossièreté canaille me charmèrent, et j'y trouvais le plus sérieusement du monde une ironie qui ne manquait pas de littérature. Aux scènes d'amour, je m'attendris. Je rencontrai, durant le dernier entr'acte, un jeune homme que je connaissais à peine. satisfait de pouvoir déverser sur quelqu'un ce qui s'abusait en moi de banalité communicative, je m'accrochais à lui. « Épatante, cette pièce, me dit-il, renversante, mon cher. » « Oui, elle est pas mal, pas mal, pas mal, mais c'est un chef-d'œuvre, mon cher, un chef-d'œuvre épatant. Moi, ce que je préfère, c'est le second acte. Il y a une situation, oh non, là, une situation d'une force. C'est de la haute comédie, vous savez. Et les toilettes, et cette judique, oh, cette judique !» Il se frappa la cuisse et claqua de la langue. « Ce qu'elle m'excite, mon cher, c'est épatant !» Nous discutâmes ainsi le mérite des divers actes, des diverses scènes, des divers acteurs. Au moment de nous séparer, « Dites-moi, lui demandai-je, est-ce que vous ne connaissez pas une certaine Juliette Roux ?»« Attendez donc, ah, parfaitement, une petite brune très chic. Ah non, non, je confonds, attendez donc... Juliette Roux... Oh non, non, connais pas. » Une heure après, je m'attablais devant un soda water au Café de la Paix, où avaient accoutumé de se réunir à la sortie des théâtres les plus beaux spécimens du monde galant. Beaucoup de femmes entraient, sortaient, insolentes, tapageuses, recrépies d'une couche de poudre de riz, les lèvres à nouveau badigeonnées de rouge. Et à la table voisine de la mienne, une petite blonde, déjà vieille, très animée, racontait je ne sais quoi d'une voix cassée par la noce, et une autre plus loin, brune, minaudait avec une majesté comique de dindon, et de la même main qui avait croché le fumier dans les cours de ferme, elle maniait l'éventail, tandis que l'homme qui l'accompagnait, affalé sur une chaise, le chapeau un peu rejeté en arrière, les jambes écartées, suçait la pomme de sa canne obstinément. Un invincible dégoût me monta du cœur aux lèvres. J'eus honte d'être là. Je comparais aux allures ridicules et bruyantes de ces femmes la tenue si réservée de la douce Juliette. Là-bas, dans l'escalier de l'Ira, ses voix rauques ou perçantes rendaient plus suave encore la fraîcheur de sa voix, de cette voix que j'entendais encore me disant « Enchanté, monsieur, mais je vous connais beaucoup. » Je me levai. « Quel canaille tout de même que ce Lyra !» m'écriai-je en me mettant au lit. Furieux de ce qu'il eût traité de la sorte, une femme que je n'avais rencontrée ni dans la rue, ni au bois, ni au restaurant, ni au théâtre, ni au cabaret nocturne. « Madame Juliette Roux, je vous prie. « Si monsieur veut entrer, me dit la domestique. Sans demander mon nom, sans attendre ma réponse, elle me fit traverser une petite antichambre très sombre et me conduisit dans une pièce où je ne distinguais tout d'abord qu'une lampe habillée de son grand abat-jour rose qui brûlait doucement dans un coin. La domestique remonta la lampe, emporta un manteau de loutre, jeté sur un divan. « Je vais prévenir madame, » dit-elle. Et elle disparut, me laissant seul. Ainsi j'étais chez elle. Depuis 8 jours, l'idée de cette visite me tourmentait. Vous n'avez aucun plan, aucun projet. Je dis au revoir Juliette, voilà tout. Quelque chose comme une curiosité très vive que je n'analysais pas m'attirait vers elle. Plusieurs fois, j'étais allé dans la rue de Saint-Pétersbourg avec l'intention bien arrêtée de me présenter chez elle, mais au dernier moment, le courage m'avait manqué et j'étais parti sans avoir pu me décider à franchir la porte de sa maison. Et maintenant, j'étais l'homme le plus embarrassé du monde et regrettais fort ma sottise, car c'était une sottise, évidemment. Comment me recevrait-elle? Que lui dirais-je? Sans doute, elle m'avait engagé à venir. Oh, se souviendrait-elle de moi? Ce qui m'inquiétait surtout, c'est que j'avais beau faire appel à mon intelligence, je ne trouvais pas la moindre phrase, pas le moindre mot pour aborder la conversation quand Julienne serait là. Si j'allais rester court la bouche ouverte, quel ridicule! J'examinais la pièce où Juliette entrerait tout à l'heure. Cette pièce était un cabinet de toilette, servant en même temps de salon. L'impression que j'en eus me fut désagréable. La toilette, étalée brutalement avec ses deux cuvettes de cristal rose craquelé, me choqua. Les murs et le plafond, tendus de satin rouge criard, les meubles en peluche brodée, les portières compliquées, des bibelots très chers et très laids posés çà et là sur les meubles, des tables bizarres, sans destination, des consoles chargées de lourds ornements, tout cela disait un goût vulgaire. Je remarquai, occupant le milieu de la cheminée entre deux massifs vases d'onyx, un manemour en terre cuite qui bombait le poitrine, souriait avec une moue spirituelle et offrait une fleur du bout de ses doigts écartés. Chaque détail révélait ici l'amour du luxe cher et grossier. Là, une tendance regrettable à la romance, à l'attendrissement en bébête. C'était à la fois navrant et sentimental. Pourtant, et ce me fut une satisfaction, je ne rencontrai pas le disparate, le fugitif, le heurté des appartements de filles, ces appartements où l'on sent l'existence à garde, où l'on peut, au nombre de bibelots entassés, compter le nombre des amants qui ont passé là, amants d'une heure, d'une nuit, d'une année, où chaque siège vous crie une impudeur et une trahison, où l'on voit sur une vitrine l'agonie d'une fortune, sur un marbre les traces encore chaudes d'une larme, et sur un lustre des gouttes encore chaudes de sang. La porte s'ouvrit, et Juliette, toute blanche dans une robe longue et flottante, apparut. Je tremblais, le rouge me montait à la figure, mais elle me reconnut, et souriant de ce sourire qu'enfin je retrouvais, elle me tendit la main. « Ah, monsieur Mintier, me dit-elle, oh que c'est gentil à vous de m'avoir pas oublié. Y a-t-il longtemps que vous avez vu cet original de Lyra ?»« Oh, mais oui, madame, pas depuis le jour où j'ai eu l'honneur de vous rencontrer chez lui. » « Oh, mon Dieu, mais je croyais que vous ne vous quittiez jamais. »« Il est vrai, répondis-je, que je le vois beaucoup, mais j'ai travaillé tous ces jours-ci. » Ayant cru remarquer dans le ton de sa voix une intention ironique, j'ajoutai en matière de défi. « Quel grand artiste, n'est-ce pas ?» Juliette laissa passer cette exclamation. « Vous travaillez donc toujours, dit-elle. » Du reste, on m'a dit que vous viviez en vrai chartreux. Le fait est qu'on ne vous aperçoit nulle part, monsieur Mintier. La conversation prit un tour excessivement banal. Le théâtre en fit presque tous les frais. À une phrase que je dis, elle s'étonna un peu scandalisée. « Comment, vous n'aimez pas le théâtre? Est-il possible, vous, un artiste? Oh, moi, j'en raffole. C'est si amusant, le théâtre. » Nous retournons ce soir aux variétés pour la troisième fois, figurez-vous. On entendit un faible jappement derrière la porte. « Oh, mon Dieu !» s'écria Juliette en se levant avec précipitation. « Mon spi que j'ai laissé dans la chambre. Oh, il faut que je vous présente mon spi, monsieur Mintier. Vous ne connaissez pas mon spi ?» Elle avait ouvert la porte, écartait les tentures toutes grandes. « Allons, spi » dit-elle d'une voix calmine. « Où êtes-vous, spi? Allez, venez, pauvre spi !» Et je vis un minuscule animal, au museau pointu, aux longues oreilles, qui s'avançait, dansant sur des pattes grêles, semblable à des pattes d'araignée, et dont tout le corps, maigre et bombé, frissonnait comme s'il était écroué, secoué par la fièvre. Un ruban de soie rouge, soigneusement noué sur le côté, lui entourait le cou en guise de collier. « Allons, Spi, dites bonjour à monsieur Mintier. » Spi tourna vers moi, ses yeux ronds, bêtes et cruels, à fleur de tête, et aboya hargneusement. « C'est bien, Spi, donnez la patte maintenant. »« Voulez-vous bien donner la patte, hein? Allez, Spi, voulez-vous bien ?» Juliette s'était penchée et le menaçait du doigt sévèrement. Spi finit par mettre la patte dans la main de sa maîtresse, qui l'enleva, le caressa et l'embrassa. « Oh, amour, va, oh, le bon chien, oh, petit amour de Spi chérie !» Elle se rassit, le tenant toujours dans ses bras, ainsi qu'un enfant, frottant sa joue contre le museau de l'affreux animal, lui soufflant dans l'oreille des choses douces et berceuses. « Maintenant, faites voir que vous êtes content, Spi. Faites voir à vous, petite mère, à votre petite mère. » Spi aboya de nouveau, puis il vint lécher les lèvres de Juliette, qui s'abandonnait réjouie à ses odieuses caresses. « Oh, que vous êtes gentil, Spi. Oh oui, que vous êtes bien, bien, bien gentil. » Et s'adressant à moi, qui semblait complètement oublié depuis la fameuse rencontrée de Spi, tout à coup elle me demanda « Vous aimez les chiens, monsieur Mintier ?»« Oh, beaucoup, madame, » répondis-je. Alors elle me raconta, en un luxe de détails enfantins, l'histoire de Spi, ses habitudes, ses exigences, ses drôleries, les scènes dont il était la cause, avec la concierge qui ne pouvait le souffrir. « Mais c'est couché qu'il faut le voir, » affirma-t-elle. « Si vous saviez, il a un lit, des draps, un édredon, comme une personne. Chaque soir, je le borde. Et là, sa petite tête est si amusante, toute noire là-dedans. N'est-ce pas que vous êtes bien, bien drôle, monsieur Spi ?» Spi se choisit une place commode sur la robe de Juliette, et après avoir tourné, il se roula en boule, disparaissant presque entièrement dans les plis soyeux de l'étoffe. « C'est ça, dodo, Spi, dodo, mon petit loulou !» Durant cette longue conversation avec Spi, j'avais pu examiner Juliette à mon aise. Elle était vraiment très belle, plus belle encore que je l'avais rêvée sous la voilette. Son visage rayonnait réellement. Il était d'une telle fraîcheur, d'une telle clarté d'aurore, que l'air alentour s'en trouvait tout illuminé. Lorsqu'elle se détournait ou se penchait, je voyais ses cheveux lourds, très noirs, descendre le long de sa robe, en une natte énorme qui donnait je ne sais quoi de plus virginal et de plus jeune à sa jeunesse. Il me sembla qu'un pli droit, volontaire, se creusait au milieu du front, à la racine des cheveux, mais il n'était visible que dans certaines lumières, et l'éclatant de douceur des yeux, l'excessive bonté de la bouche en tempérait la dureté. Sous le vêtement ample, on sentait se cambrer un corps souple, nerveux, aux ondulations passionnées, aux puissantes étreintes. Et ce qui me ravit surtout, ce furent ses mains, mais des mains subtiles et adroites, d'une agilité surprenante et dont chaque mouvement, même indifférent, même colère, était une caresse. Oh, il m'eût été difficile de porter sur elle un jugement précis. Il y avait en cette femme un mélange d'innocence et de volupté, de finesse et de bêtise, de bonté et de méchanceté qui me déconcertait. Chose curieuse, à un moment, j'avais vu se dessiner près d'elle l'horrible image du chanteur des bouffes. Et cette image formait, pour ainsi dire, l'ombre de Juliette. Et loin de se dissiper, à mesure que je la regardais, l'image incarnait en quelque sorte une consistance corporelle. Elle grimaça, virevolta, bondit avec des contorsions infâmes. Ses lèvres s'allongèrent, immondes, obscènes, vers Juliette qui l'attirait, dont la main plongée dans ses cheveux, courait, frémissante tout le long du corps, heureuse de se souiller à d'impur contact. Et l'ignoble pitre dévêtait Juliette et me la montrait pâmée dans la splendeur maudite du péché. Je dus fermer les yeux, faire des efforts douloureux pour chasser cette abominable vision. Et l'image évanouie, Juliette reprit aussitôt son expression de tendresse énigmatique et candide. « Et surtout, revenez me voir souvent, très souvent, » me disait-elle en me reconduisant, tandis que Spie, qui l'avait suivi dans l'antichambre, aboyait et dansait sur ses pattes grêles d'araignée. À peine dehors, j'eus un retour d'affection subite et violente pour Lyra, et me reprochant de l'avoir quelque peu boudée, je résolus d'aller lui demander à dîner le soir même. Durant le trajet de la rue Saint-Pétersbourg au boulevard de Courcelles, où Lyra demeurait, je fis d'amères réflexions. Cette visite m'avait désenchanté. Je n'étais plus sous le charme du rêve, et rapidement je retournais dans la vie désolée, au nihilisme de l'amour. Ce que j'avais imaginé de Juliette était bien vague, et mon esprit, s'exaltant à sa beauté, lui prêtait des qualités morales, des supériorités intellectuelles que je ne définissais pas, que je me figurais extraordinaire. Et de plus, Lyra, en lui attribuant sans raison une existence déshonorée et des goûts honteux, en avait fait une martyre véritable, et mon cœur s'était ému. Poussant plus loin la folie, je pensais que par une irrésistible sympathie, elle me confierait ses peines, les graves et douloureux secrets de son âme. Je me voyais déjà la consolant, lui parlant de devoir, de vertu, de résignation. Enfin, je m'attendais à une série de choses solennelles et touchantes. Et au lieu de cette poésie, un affreux chien qui m'aboyait aux jambes, et une femme comme les autres, sans cervelle, sans idée, uniquement occupée de plaisir, bornant son rêve au théâtre des variétés et aux caresses de son spi. Son spi, ha ha ha, son spi, cet animal ridicule qu'elle aimait avec des tendresses et des mots de concierge. Et tout en marchant, je donnais des coups de pied dans le vide, un spi imaginaire, et je disais, parodiant la voix de Juliette, « Oh, amour, va, oh, le bon chien, oh, petit amour de spi chéri !» Faut-il l'avouer, je lui en voulais aussi de ne m'avoir pas dit un mot de mon livre. Qu'on ne m'en parlât pas dans la vie ordinaire, cela m'était à peu près indifférent, mais d'elle, un compliment m'eût charmé. Savoir qu'elle avait été émue à une page, indignée à une autre, je l'espérais, et rien, pas même une allusion. Cependant, je me rappelais, je lui avais adroitement fourni l'occasion de cette politesse. « Bon, décidément, c'est une grue !» m'écriai-je en sonnant à la porte de Lyra. Lyra me reçut les bras ouverts. « Oh, mon petit maintier !» s'exclama-t-il. « Oh, c'est très chic de venir dîner avec moi. Et vous arrivez bien, je vous le dis, nous avons la soupe aux choux. » Il se frottait les mains, semblait tout heureux. Il voulut me débarrasser de mon pardessus et de mon chapeau, et m'entraînant dans la petite pièce qui lui servait de salon, il répéta « Oh, mon petit maintier, oh, je suis joliment content de vous voir. Viendrez-vous demain à l'atelier ?»« Oui, certainement. »« Eh bien, vous verrez, vous verrez. » « Oh, d'abord, je lâche la peinture, comprenez-vous? Vous entrez dans le commerce? Écoutez-moi, la peinture, c'est de la blague, mon petit maintier. » Il s'anima, tourna dans la pièce en agitant les bras. « Giotto, Mantegna, Velasquez, Rembrandt. Eh bien quoi, Rembrandt, Watteau, Delacroix, Ingres? Oui, et puis après? Non, c'est pas vrai. » La peinture ne rend rien, n'exprime rien, c'est de la blague. C'est bon pour les critiques d'art, les banquiers, les généraux, qui font faire leur portrait à cheval avec un obus qui éclate au premier plan. Mais à quoi le ciel, le son d'une ton d'une fleur, le frisson de l'eau, l'air, comprenez-vous l'air, toute la nature impalpable et invisible avec de la pâte, avec de la pâte. Lyra haussa les épaules. « Et de la pâte qui sort des tubes, de la pâte fabriquée par les sales mains des chimistes, de la pâte lourde, opaque et qui colle aux doigts comme de la confiture. Dites-la, Perture, mais quelle blague! Non, mais avouez-le, mon petit maintier, quelle blague! Le dessin, l'eau forte, deux tons, à la bonne heure, ça ne trompe pas, c'est honnête. Et puis les amateurs s'en moquent, ne viennent pas vous embêter. Ça ne tire pas de feu d'artifice dans leur salon. L'art vrai, l'art auguste, l'art artiste, le voilà. La sculpture, oui, quand c'est beau, ça vous fiche des coups dans les entrailles. Et puis le dessin, oh le dessin, mon petit bâtier, semble de Prusse, le dessin tout bête. Viendrez-vous demain à l'atelier? Oui, certainement. Il continua, coupant les phrases, heurtant les mots, se grisant de bruit et de paroles. Oh, je commence une série d'eau forte, vous verrez. Une femme toute nue qui sort d'un trou d'ombre et qui monte portée sur les ailes d'une bête. Renversée, les cuisses m'affluent avec des plis gras, des bourrelets de chair ignobles. Un ventre qui s'étale et qui déborde. Un ventre avec des accents terribles, un ventre hideux et vrai. Une tête de mort, mais une tête de mort vivante, comprenez-vous? Avide, goulu, tout en lèvres. Elle monte devant une assemblée de vieux messieurs en chapeau de forme, en pelisse et cravate blanche. Elle monte et les vieux messieurs se penchent sur elle, haletant, la bouche pendante et baveuse, les yeux convulsés, enfin, toutes les faces de la luxure, toutes. Et se campant devant moi avec un air de défi, il poursuivit. « Et savez-vous comment j'appelle ça? Le savez-vous, dites? J'appelle ça l'amour, mon petit bâtier, hein? Qu'en pensez-vous? Oh, cela me paraît trop symbolique, hasardai-je. Symbolique, interrompit Lyra. Mais vous dites une bêtise, mon petit bâtier, symbolique. Mais c'est la vie. Allez, allons dîner. » Le dîner fut gai. Lyra y déploya un esprit charmant, tout rempli d'aperçus originaux sur l'art et sur la littérature, sans outrance, sans paradoxe. Il avait retrouvé sa verve saine comme meilleur jour de sa vie. À plusieurs reprises, j'eus l'idée de lui avouer que j'avais été voir Juliette. Une sorte de honte me retint, je n'osais pas. « Travaillez, travaillez, mon petit maintier, me dit-il en nous quittant. Produire, toujours produire. Tirer de ses mains ou de son cerveau n'importe quoi, ne fût-ce qu'une paire de bottes. Il n'y a que ça encore. Allez, allez. » 6 jours après, j'étais retourné chez Juliette et j'avais pris l'habitude d'y venir régulièrement passer 1 heure avant mon dîner. L'impression désagréable ressentie lors de ma première visite s'était effacée. Peu à peu, et sans que je m'en doutasse, je m'étais si bien accoutumé aux teintures rouges de son salon, à l'amour en terre cuite, au bavardage enfantin de Juliette, à Spi même, qui était devenu mon ami, que lorsque j'avais passé 1 journée sans les voir, il me semblait qu'un grand vide se creusait cette journée-là dans ma vie. Non seulement les choses qui m'avaient tant choqué ne me choquaient plus, elles m'attendrissaient au contraire. Et chaque fois que Juliette conversait avec son chien ou prenait de lui des soins exagérés, cela m'était véritablement une douceur et comme une affirmation répétée de la naïveté des qualités aimantes de son cœur. Et je finis par parler, moi aussi, ce langage de chien. Un soir, que Spi était souffrant, je m'inquiétais et, délicatement, écartant les couvertures et les couettes qui l'enveloppaient, je murmurais « Il a du bobo, le petit Spi, oh, où ça, il a du bobo ?» Seule l'image du chanteur, surgissant tout à coup auprès de Juliette, troublait quelquefois la paix de ses réunions, mais je n'avais qu'à fermer les yeux un instant ou à tourner la tête, et elle disparaissait aussitôt. Je décidai, Juliette, à me conter sa vie. Elle avait toujours résisté jusque-là. « Non, non, » disait-elle. Et elle ajoutait avec un soupir en me regardant de ses grands yeux tristes. « À quoi bon, mon ami ?» J'insistais, suppliais. « Mais c'est un devoir pour vous de me la révéler et un devoir pour moi de la connaître. » Enfin, vaincu par ce raisonnement que je ne me lassais pas de réitérer, sous des formes multiples et convaincantes, elle consentit. Oh, quelle tristesse! Elle habitait Liverdun. Son père était médecin et sa mère, qui menait une mauvaise conduite, avait quitté son mari. Quant à elle, Juliette, on l'avait mise en demi-pension chez les sœurs. Le père buvait et chaque soir rentrait ivre. Alors c'était des scènes terribles, car il était fort méchant. Le scandale devint tel que les sœurs renvoyèrent Juliette, ne voulant pas garder chez elles la fille d'une mauvaise femme et d'un ivrogne. Ah, quelle misérable existence! Toujours enfermée dans sa chambre, n'osant pas sortir, et quelquefois battue sans raison par son père. Une nuit très tard, le père entra dans la chambre de Juliette et... « Comment vous exprimez cela ?» disait Juliette rougissante. « Oui, enfin, vous comprenez. » Elle saute du lit, crie, ouvre la fenêtre, mais le père prend peur et s'en va. Le lendemain, Juliette partait pour Nancy, espérant vivre en travaillant. Et c'est là qu'elle avait connu Charles. Tandis qu'elle parlait d'une voix douce et toujours pareille, je lui avais pris la main, sa belle main, que je serrais avec émotion, aux endroits douloureux du récit. Et je m'emportais contre le père infâme, et je maudissais la mère abandonnant son enfant. Je sentais s'agiter en moi de formidables dévouements, grondés de sourdes vengeances. Quand elle eut fini, je pleurais à chaudes larmes. Oh, ce fut une heure exquise! Juliette recevait peu de monde, des amis de Malter et deux ou trois femmes, amies des amis de Malter. L'une d'elles, Gabrielle Bernier, grande blonde, très jolie, entrait toujours de la même façon. « Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, petite. Vous dérangez pas, je me sauve. » Et elle s'asseyait sur un bras de fauteuil, en lissant son manchon par geste brusque. Oh, figurez-vous que j'ai encore eu une scène tantôt avec Robert. Oh, quel type, si vous saviez! Il s'amène chez moi et me dit en pleurnichant, « Ma petite Gabrielle, il faut que je te quitte. Ma mère me l'a déclaré ce matin, elle me donnera plus d'argent. » Ta mère, que je lui réponds, eh bien, tu peux lui dire à ta mère et de ma part que le jour où elle quittera ses amants, je te quitterai pour la même occasion. Oh, d'ici là, elle peut se fouiller, ta mère. C'est-il pas vrai aussi, une vieille saleté comme ça? Oh, ce que Robert a pouffé! Oh, dites donc, nous allons à l'ambigu ce soir, y venez-vous? Merci. Bon, alors je me sauve, ne vous dérangez pas. Bonjour, monsieur, bonjour, petite. Oh, cette Gabrielle Bernier m'irritait beaucoup. Mais pourquoi recevez-vous des femmes comme ça? Disais-je à Juliette. Mais quel mal, mon ami, elle m'amuse! Les amis de Malter, eux, parlaient courses, vie élégante, avaient toujours des histoires de cercles et de femmes à raconter, ne tarissaient pas sur les choses de théâtre. Il me semblait que Juliette prenait plaisir, plus que des raisons, à ces conversations, mais je l'excusais, mettant ses complaisances sur le compte de la politesse. J'ai cela, un jeune homme très riche, dont on vantait le sérieux, était le bout en train de la bande, tous s'inclinaient devant son évidente supériorité. Qu'en pensera Jocelyn? Oh, il faut demander à Jocelyn. Oh non, c'est pas la vie de Jocelyn. On le courtisait fort. Jocelyn avait beaucoup voyagé et connaissait mieux que personne les meilleurs hôtels du monde entier. Ayant été en Afghanistan, il n'avait retenu de tout un voyage à travers l'Asie centrale que cette particularité, c'est que l'émir de Kaboul, avec qui il eut un jour l'honneur de faire une partie d'échecs, jouait aussi vite que les Français. Oh non, ce qu'il m'a épaté, cet émir! Il répétait aussi volontiers, « Vous savez, si je m'en suis payé des voyages, eh bien je puis le dire, en sleeping, en cabine, en télègue, n'importe où et n'importe comment, à 7h30, tous les soirs, en habit. Malter ne m'aimait pas, bien qu'il se fût lié avec moi. D'une nature douce et timide, il n'osait me marquer son aversion dans la crainte de déplaire à Juliette, mais Je la voyais sourdre dans son sourire de bon chien étonné, mais je la sentais s'impatienter dans sa poignée de main. Je n'étais heureux que seul avec Juliette. Là, dans le salon rouge, sous l'égide de l'amour et terre cuite, nous restions parfois de longtemps sans prononcer une parole. Je la regardais, elle baissait la tête et, songeuse, jouait avec les effilés de sa robe ou les dentelles de son corsage, et souvent mes yeux s'emplissaient de larmes, sans que je susse pourquoi. Des larmes très douces qui coulaient sur moi comme un parfum m'inondaient l'âme d'une liqueur magique. J'éprouvais dans tout mon être une sensation de plénitude et de délicieux engourdissement. « Ah, Juliette, Juliette ! Voyons, mon ami, voyons, soyez sage !» C'étaient les seuls mots d'amour qui nous échappassent. À quelque temps de là, Juliette donnait un grand dîner pour célébrer la fête de Charles. Pendant toute la soirée, elle se montra nerveuse, agacée. À Charles, qui lui adressa une observation timide, elle répondit durement d'un ton bref que je ne lui connaissais pas. Il était 2 heures du matin quand tout le monde prit congé. J'étais demeuré seul dans le salon. Près de la porte, Malterme tournait le dos, causant avec Gesselin, qui passait sa pelisse dans l'antichambre. Et je vis Juliette accoudée au piano qui me regardait fixement. Un éclair de passion farouche traversait ses yeux devenus graves tout à coup, presque terribles, les barrés comme d'une flamme nouvelle. Le pli de son front s'accentuait, sa narine battante et gonflée frémissait, je ne sais quoi d'impudique errait sur ses lèvres. Je m'élançai, et mes genoux cherchant ses genoux, mon ventre se collant à son ventre, ma bouche sur sa bouche, je l'enlaçai d'une étreinte furieuse. Elle s'abandonna, et d'une voix très basse étranglée, « Viens demain !» dit-elle.